Soldat. Soldat deuxième classe, Lucien. Lucien Gaston. Oui. Mon nom. Mon nom est composé de deux prénoms. J'ai 30 ans, 4 mois et 7 jours. Enfin, je crois. Je suis un jour près. Je compte les jours. Je n'ai pas vraiment bougé depuis plusieurs semaines, mais le monde tout autour de moi, lui, a bougé.
La Première Guerre mondiale est souvent décrite par les historiens comme un point de basculement, un passage entre l'ancien monde et le monde moderne. Les moyens technologiques mis en œuvre, le développement de l'industrie, les progrès de la médecine, la redistribution politique ont fait de cette période un moment clé du XXe siècle. Au théâtre d'Arras s'est déroulée la pièce marionnettisée et tranchée, proposée par la compagnie Zapoy, écrite par Philippe Forgeot et mise en scène par Denis Bonnetier. Une œuvre qui invite le spectateur à déambuler dans différents aspects de la période, plus communément appelée Grande Guerre, afin de provoquer une nouvelle appropriation d'un épisode important de notre histoire. Rencontre avec le metteur en scène Denis Bonnetier, qui nous explique le pourquoi du comment de ce spectacle.
C'est un spectacle qu'on a, dès la conception, voulu pour les collégiens, les lycéens, avec un objectif de réveiller par l'émotion leur appréhension à l'histoire, quoi. De comprendre l'histoire et de s'en préoccuper, parce que c'est super important. C'est très très important pour comprendre l'avenir.
Alors tu peux nous résumer brièvement l'histoire et comment c'était venu de la mettre en scène ?
L'histoire, c'est un soldat mort qui est tellement en douleur qu'il ne comprend pas. Donc il est atterri dans les limbes où la mort est chargée d'accueillir les amérantes et de les calmer et de les apaiser. Et pour pouvoir s'apaiser, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc la mort va réveiller les fantômes pour que les morts qui sont les manipulateurs de la mort puissent comprendre, et donc ils vont vivre un parcours à l'intérieur de fragments, de petits morceaux de l'histoire, de points de vue, du point de vue des généraux, du point de vue d'un simple soldat, de quelqu'un qui écrit une lettre, d'un déserteur, de quelqu'un qui est sombré dans la folie. Et donc en recueillant un peu tous ces parcours-là, ils ont une compréhension des choses et finalement à la fin du spectacle, ils sont apaisés et ils peuvent mourir pour de bon.
Petits soldats de plomb, rappelez-vous des somptueux uniformes, petits soldats de plomb, et frémissez, courez! Et que le jeu finisse comme il a commencé.
Tout citoyen soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation.
Vous avez parlé de votre arrière-grand-père donc, qui a fait cette guerre 14-18, alors c'est ça qui vous a inspiré pour cette histoire ?
Ce qui m'a inspiré, c'est le silence. Moi, je suis d'origine alsacienne, donc mon arrière-grand-père maternel était dans l'armée allemande. Et quand il est rentré, il n'a jamais rien raconté à personne. Bon, ce qui est terrible, c'est que 30 ans plus tard, son fils, donc mon grand-père maternel, lui a été enrôlé de force dans l'armée allemande. Et pareil, donc il était malgré nous, et quand il est rentré, il n'a jamais rien raconté. Donc c'est une empreinte familiale qui a été ancrée dans l'histoire et sur laquelle on finalement ne sait rien.
Si on prend aussi le côté un peu de la dramaturgie, de la scénographie, il y a beaucoup de matériel qui est très efficace. Comment tout ça s'est mis en place ? Comment vous avez imaginé ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce matériel ?
C'est une construction qui se fait au fur et à mesure de la construction du spectacle. Les premières phases de recherche ont été vraiment un espèce de laboratoire de travail autour de l'argile. Donc on s'est rendu compte qu'il nous fallait des tables. Mais comme on ne voulait pas des tables fixes pour pouvoir faire évoluer le plateau, on a fait ça sur des tables à roulettes, donc des espèces de grosses caisses au plateau. On sait que les caisses, c'était un élément essentiel, il y en avait partout dans les tranchées, parce qu'il fallait tout le matériel se transporter dans des caisses en bois. Et puis on a aussi cherché à travailler pour qu'on soit dans l'univers de la mort, donc dans une espèce de limbe. Et tous les objets qui sont suspendus, qui tombent, en fait, sont des souvenirs, des morceaux. Comme nos deux personnages principaux vont accrocher leur casquette à la fin dans ce décor pour pouvoir y mourir, au même titre, il y en a d'autres qui sont passés avant eux et qui ont laissé un carnet de croquis, une marionnette, un petit jouet, une gourde, des petits objets comme ça un peu symboliques qui sont des photographies aussi et qui sont une manière d'avoir posé quelque chose à soi dans cet univers-là avant de pouvoir partir.
Hé, T'as pas vu mon corps?
Mais tu es qui, toi?
Je suis l'âme du soldat disparu. Je cherche mon corps.
Il a disparu. Il n'a pas retrouvé son corps.
Non. Tu ne comprends pas, c'est mon corps. Je suis son âme. Attends! J'ai jamais vu une âme qui cherche son corps.
Pourquoi avoir choisi une grand-mère pour représenter la mort?
La mort, déjà, on sait tout de suite, on l'a vite senti qu'elle allait devenir un personnage central. On n'a pas pu la faire réaliste parce que c'était trop violent. Et on a lu beaucoup de témoignages où souvent les soldats l'accueillaient comme une délivrance. Et finalement, si la mort était un personnage, elle y est pour rien. C'est les mains de l'homme qui fabriquent tout ça. C'est pas la mort en tant que personnage. C'est cette idée-là. Donc on en a fait une grand-mère accueillante qui adoucit. Et elle a ce rôle-là aussi dans tout le spectacle parce qu'on constitue quand même des images qui sont symboliquement et émotionnellement assez violentes. Et donc cette marionnette qui est très douce nous permet de jouer avec l'émotion du public et de pouvoir relativiser, ou après une scène qui peut être très forte, on peut ramener le calme et la douceur dans le public.
Les deux comédiens qui sont sur scène, évidemment, sont marionnettistes. En même temps, ils font aussi part entière du spectacle. On les voit un peu comme des officiers ou sous-officiers. Et puis, il y a quand même quelque chose de très intéressant. C'est qu'à un moment donné, ils jouent pas mal avec justement ce côté argileux des marionnettes pour essayer de faire parvenir un effet comique qui est très réussi. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation parfois où tout est calculé au millimètre près ?
La matière même, c'est-à-dire l'argile, est quelque chose de mou et de glissant et qui sèche, qui durcit. Et en fait, on a construit dans ce spectacle une certaine manière de gérer l'accident. Dans le sens où cette matière, elle nous réserve des surprises. Il y a plein de choses qui sont nées d'accidents. On a une scène où en général, quand il parle, sa tête tombe au sol. Ben, c'est arrivé une fois par accident, on a trouvé ça drôle, du coup on l'a récupéré. Et petit à petit, on a construit la scène à partir en fait des particularités de ce qu'on a dans les mains. Mais c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche d'exploration marionnettique de la matière, dans le sens où on va être à l'écoute de ce qu'elle propose et s'en servir pour en faire un argument théâtral.
Bien ! Alors, étant donné l'incorporation dans nos armées de soldats noirs, issus de peuplades indigènes et parlant différents dialectes, le gouvernement des armées et moi-même se voient donc dans l'obligation de créer un langage commun, simplifié et baptisé le Petit Nègre. Exemple, une jument se dira donc cheval-femme, une chienne chien-femme, une truie cochon-femme, une grenouille
crapaud-femme.
Ouais. Allez, allez. Le pluriel. Le pluriel sera remplacé par beaucoup pour les grosses quantités et par un peu pour les petites quantités. Exemple, un grand troupeau de moutons se dira donc « Ça, y en a, moutons, beaucoup !»
Alors, évidemment, vous abordez les thèmes de l'horreur de la guerre, c'est un fait. Vous vous placez du côté des généraux qui envoient quand même les pauvres soldats au front pendant qu'eux prennent du bon temps. Mais vous abordez aussi également le thème de l'antisémitisme d'époque, avec notamment les dialogues assez intéressants.
Alors ça, c'était pendant le processus de création, pendant les recherches, on est tombé sur un manuel qui s'appelle le manuel de grammaire à l'usage des tirailleurs. En fait, c'était une manière d'apprendre le français à toutes les troupes qui venaient d'Afrique. Et voilà, donc on a récupéré certains exemples, certaines leçons de grammaire qu'on a mis en scène à travers un général qui donc fait une leçon de grammaire au public. Et donc on apprend effectivement à parler le Petit Nègre, qui est un langage en fait qui a été créé par les militaires pour apprendre le français aux troupes coloniales.
Qu'est-ce qu'on fait des Kanaks?
Envoyez-les au front, naturellement, mon général.
Mais c'est que nous n'avons Plus d'armes pour eux, mon général.
Eh bien, envoyez-les au front, mon général.
Juste avec leurs machettes, mon général.
Eh bien, c'est leur arme ancestrale, non? Eh bien, je pense que les Kanaks n'ont qu'une envie de froisser leurs ancêtres. Et qu'ils seront même honorés de leur rendre cet hommage. Envoyez-les au front!
La musique est super importante. Comment elle a été conçue? Est-ce que vous y avez pris part ou vous avez laissé libre cours au concepteur de la musique, tout simplement?
La musique s'est créée quand j'ai rencontré donc Esteban Fernandez. Je lui ai dit, tu viens, tu es avec nous. Au début, ma seule volonté, c'était d'avoir des boîtes à musique. D'avoir une musique mécanique, donc une musique militaire, et une musique qui, finalement, est assez insupportable à la longue. Ça a été ma première consigne. Et donc Esteban a accompagné les répétitions, et donc au fur et à mesure, tout d'un coup, tiens, un son, plus un autre, plus tout d'un coup, là, ça peut devenir un petit morceau. Et en fait, comme un comédien va faire des propositions au plateau, le compositeur a fait exactement la même chose en nous accompagnant et en étant lui présent aux répétitions. Et donc en allant composer, le matin il allait composer dans son atelier, l'après-midi il revenait avec des propositions, et puis petit à petit en fait la musique s'est construite dans une vraie relation entre les interprètes au plateau, la mise en scène, la lumière, et ça a été vraiment une conception collective. Dans le sens où lui proposait la musique, mais ça se faisait en même temps que la mise en place de l'ensemble du spectacle.
La séance était réservée au public scolaire. Chloé, élève du collège François Mitterrand d'Arras, nous livre ses réactions à chaud.
Pour les jeunes, ils comprennent bien. Il y a des scènes marquantes. La scène qui m'a beaucoup touchée, c'est avec le fil et la personne qui tenait le fil. Puis la scène qui m'a fait rire, c'est la femme qui avait la tête sur la personne en train de danser.
Est-ce que tu as compris un peu le message qui était transmis par rapport justement à tous ces gens qui étaient envoyés à la guerre?
En fait, c'est comme si c'était des bêtes qu'ils envoyaient à la boucherie, et puis eux, ils faisaient la fête pendant ils ne voyaient pas réellement ce qui se passait, quoi.
Est-ce que tu connais, toi, des gens dans ta famille qui ont éventuellement fait la guerre ou qui en parlent des fois?
Pas la Première Guerre mondiale.
La deuxième?
Ouais, ma grand-mère, elle travaillait un peu pour les Allemands. Enfin, elle nettoyait tout ce qu'ils faisaient et tout.